Bonjour, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le médicament Remdesivir du laboratoire américain Gilead a montré des résultats préliminaires positifs d'un grand essai clinique. Cela prouve que nous pouvons bloquer le virus, s'est félicité prudemment optimiste le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut des maladies infectieuses. Le Remdesivir a accéléré de 31% le temps de rétablissement. À noter cependant que la revue médicale de Lancet a de son côté publié les résultats non concluants d'une plus petite étude menée dans 10 hôpitaux de Wuhan en Chine. Mais les résultats de Gilead Sciences ont été salués par un bond de la Bourse de New York où ils ont été perçus par les investisseurs comme une lumière au bout du tunnel. Il y a dans le monde plus de 3 millions de cas, plus de 224 000 morts, dont plus de 60 000 aux États-Unis, qui ont plus d'un million de cas confirmés selon l'université Johns Hopkins. Au Burkina Faso, le coordonnateur de la cellule de réponse à l'épidémie de coronavirus, le professeur Martial Ouédraogo, a été démis de ses fonctions hier et une enquête ouverte après une controverse sur les causes du décès de la première victime officielle du COVID-19 en Afrique, la députée d'opposition et deuxième vice-présidente de l'Assemblée, Rose-Marie Compaoré. Lundi, la famille a émis des doutes sur les causes de la mort, affirmant n'avoir jamais reçu son dossier médical. Human Rights Watch a accusé mercredi le pouvoir en Guinée d'entraver la nécessaire coopération de la population dans la lutte contre le coronavirus. 1351 cas confirmés, dont 7 décès, en procédant ces dernières semaines à des intimidations et à des arrestations d'opposants dans un contexte de restriction des libertés liées à la maladie et de crises politiques persistantes. Au Cameroun, plus de 1830 cas, dont 61 décès, le gouvernement veut empêcher la collecte de fonds initiés par le principal opposant Maurice Kamto pour lutter contre le coronavirus. La jugeant illégale, le ministre de l'administration territoriale a ordonné à deux opérateurs téléphoniques de fermer les comptes mobiles ouverts pour cette initiative, entre autres mesures. Un porte-parole de M. Kamto a parlé, selon l'AFP, de cruauté sans nom et de mesures inhumaines. En République démocratique du Congo, 491 cas confirmés, dont 30 décès et 59 guérisons, le trafic va reprendre ce jeudi sur le lac Kivu entre Goma et Bukavu, dont les deux provinces n'enregistrent plus aucun cas de COVID-19, a indiqué mercredi le gouverneur du Nord Kivu. Le port du masque reste cependant obligatoire pour tous les passagers, ainsi que la distanciation sociale sur le bateau et le lavage des mains et la prise de température à l'embarquement comme au débarquement. La Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement ivoirien, dénonçant des agissements intolérables de cette juridiction. Pour rappel, la Cour africaine, saisie par des partisans de l'ancien chef rebelle Guillaume Soro, avait ordonné à la Côte d'Ivoire de suspendre les procédures à son encontre. Ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle de 2020, M. Soro a été condamné mardi à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Il est aussi accusé de tentative d'insurrection. Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi la cessation des opérations militaires à l'occasion du mois du Ramadan qui a commencé le 24 avril en Libye. Le gouvernement allemand a annoncé aujourd'hui l'interdiction complète des activités du puissant mouvement chiite libanais Hezbollah en Allemagne, ce que réclamaient notamment les États-Unis et Israël. Washington, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seloudia.
La suite de nos informations. En République centrafricaine, alors que le pays fait face à une polémique sur la tenue des scrutins présidentiels et législatifs de décembre prochain, l'autorité nationale des élections sonne un autre son de cloche. Elle annonce le maintien de ses échéances à la date initialement prévue. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Le maintien de la date des prochaines élections par l'autorité nationale des élections vient ainsi donner une nouvelle dimension à la polémique entretenue depuis plusieurs jours au sujet de la tenue de ces scrutins. En effet, partis politiques de l'opposition et société civile sont à couteau tiré avec le régime au pouvoir sur un projet de modification partielle de la Constitution afin de proroger les mandats présidentiels et législatifs au-delà du délai constitutionnel. Les initiateurs de ce projet validé par l'Assemblée nationale et déjà envoyé au gouvernement le justifient par l'impact que la pandémie de Covid-19 pourrait avoir sur le calendrier électoral. Pour l'autorité nationale des élections, rien ne change dans le calendrier malgré ce contexte de crise sanitaire mondiale. Julius Ruffin Wadibaba en est le rapporteur général.
Nous avons retravaillé ce chronogramme en tenant compte des données logistiques et opérationnelles. Les opérations ont été réajustées, modifiées, mais la date de 27 décembre 2020 ne change pas. L'ANE poursuit ses activités en toute sérénité, mais en tenant compte de ce contexte sanitaire préoccupant.
Selon l'autorité nationale des élections, cette décision concerne uniquement la présidentielle et les législatives. Un autre chronogramme sera établi pour fixer la date des élections locales, conformément à la constitution centrafricaine du 30 mars 2016. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Le premier ministre de Guinée-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, et trois autres membres du gouvernement ont été contaminés par le nouveau coronavirus. Le point avec Abdourahmane Dia.
J'ai été testé positif au nouveau coronavirus. Je suis à la maison et je me sens bien, a déclaré sur sa page Facebook le chef du gouvernement, Nuno Gomes Nabiam. Le virus existe, se propage facilement. Restez à la maison et prenez toutes les mesures pour sauver votre vie et celle de votre famille, a-t-il lancé. Une bonne partie des membres de la commission interministérielle de lutte contre le coronavirus ont été contaminés, a poursuivi M. Nabiam, en soulignant que cela faisait partie des risques pour avoir été à l'avant-garde de la lutte contre la maladie. Le ministre de la Santé, Antonio Deuna, a précisé que les autres membres du gouvernement également déclarés positifs sont le ministre de l'Intérieur, Botié Kandé, le secrétaire d'État à l'Ordre public, Mario Fambe, et la secrétaire d'État à l'Intégration régionale, Monica Boiro. Le commissaire principal de la police, Biom Nancho, est le seul officiellement décédé des suites du nouveau coronavirus dans le pays. La Guinée-Bissau a enregistré officiellement 73 cas. L'état d'urgence a été décrété le 28 mars.
La pandémie de coronavirus a mis fin à plus de 10 années de croissance aux États-Unis et les mois qui viennent s'annoncent difficiles. La Fed, la Banque centrale américaine, a maintenu ses taux autour de 0%, Eric Manirakiza.
La première économie du monde a vu son produit intérieur brut reculer de 4,8% au premier trimestre. Il s'agit de la baisse la plus importante depuis 2008, lorsque les États-Unis ont traversé une grave crise économique. Restaurants, bars, boutiques, écoles ont fermé. Seuls les commerces jugés indispensables peuvent rester ouverts. Les consommateurs ont annulé, limité ou réorienté leurs dépenses. En 5 semaines, plus de 26 millions de chômeurs, c'est du jamais vu dans ce pays. Le président Donald Trump a prédit des chutes colossales pour les mois à venir. Les projections prévoient une baisse de l'ordre de 30 à 40%. L'ampleur dépendra du rythme avec lequel va redémarrer la vie normale, tout en évitant une deuxième vague de contamination du virus. La Banque centrale américaine a prévenu hier que cette crise de santé publique posera lourdement sur l'activité économique, l'emploi et l'inflation à court terme. La Fed se dit prête à utiliser toute la palette d'outils à sa disposition pour atténuer l'impact et de ce fait maintenu ses taux d'intérêt autour de 0%. Selon les analystes d'Oxford Economics, les États-Unis pourraient connaître une récession 3 fois plus forte que pendant la crise financière et la plus forte contraction économique depuis la Seconde Guerre mondiale.
La Minute Éco, Nani Talani.
La Banque centrale du Kenya a de nouveau abaissé son taux directeur à 7% contre 7,25% en raison des perspectives économiques défavorables. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une série de réductions d'impôts pour les particuliers et les entreprises qui pourraient être en difficulté. En plus, des prêts d'une valeur de 762,41 millions de dollars ont été restructurés principalement dans le tourisme, les restaurants et les hôtels, l'immobilier, la construction et le commerce. Le gouvernement sénégalais a commencé à distribuer l'aide alimentaire aux populations les plus vulnérables touchées par le COVID-19. Ce projet de 69 milliards de francs CFA concerne 1 million de ménages, soit environ 10 millions de personnes sur 16 millions d'habitants. Les bénéficiaires recevront un lot des produits de première nécessité d'une valeur de 66 000 francs CFA. Le gouvernement a aussi promis d'effacer certaines factures d'eau et d'électricité. Pour terminer, trois quarts des travailleurs informels, soit 1,6 milliard de personnes dans le monde, risquent de perdre leurs moyens de subsistance au cours de ce deuxième trimestre en raison du COVID-19. L'Organisation internationale du commerce prévient que ces personnes, qui figurent parmi les plus vulnérables sur le marché du travail, doivent désormais faire face au danger immédiat de voir leurs moyens de subsistance anéantis.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La Ligue sportive américaine pourrait devoir annuler leur saison si la sécurité des joueurs et des supporters ne peut être garantie à cause du coronavirus, a prévenu le docteur Anthony Fauci, épidémiologiste et conseiller du président Donald Trump. Le sport aux États-Unis est paralysé depuis mars par le COVID-19. Toutes les grandes ligues professionnelles ont suspendu ou reporté leurs saisons respectives. Certaines étudiaient actuellement un possible retour à la compétition à huis clos. Mais pour Anthony Fauci, il y a un risque de résurgence de la pandémie. Si les restrictions sont levées trop tôt, les projets de la NBA et de la Ligue de baseball visant à reprendre la saison à huis clos seraient probablement logistiquement difficiles, a expliqué M. Fauci. En Angleterre, Watford a engagé le milieu de terrain français Pape Gueye en fin de contrat au Havre en Ligue 2 française, malgré les incertitudes financières liées aux conséquences du coronavirus sur la Première Ligue. Le joueur de 21 ans, qui a déjà été convoqué en équipe de France des moins de 18 ans et des moins de 19 ans, s'est engagé avec les Hornets pour 5 ans à partir du 1er juillet. Né en région parisienne et formé au Havre, il s'est imposé comme titulaire en milieu de terrain depuis 2018 et a même été désigné capitaine à 5 reprises. Il a porté le brassard lors du dernier match du Havre avant la suspension, le 6 mars contre Auxerre. Toujours en Angleterre, Manchester United a annoncé avoir reçu l'autorisation d'installer une tribune debout dans son stade. 1500 barrières vont être installées dans une des tribunes d'Old Trafford pour permettre aux supporters de suivre les matchs debout en toute sécurité. En Angleterre, il est interdit de se tenir debout dans les stades de première et deuxième division depuis la saison 1994-1995. Des conditions de sécurité imposées après la mort de 96 personnes lors d'une catastrophe en 1989. Mais ces dernières années, l'idée de tribunes debout sécurisées a effectué son retour à l'image de celle déjà autorisée dans les stades de Tottenham et Wolverhampton. Pour finir, Sepp Blatter n'a pas encore fini avec la justice. Un rapport de police assure que les soupçons de gestion déloyale à l'encontre de l'ancien président de la FIFA étaient bien fondés, même si le ministère public de la Confédération helvétique a décidé de clore l'une des deux enquêtes le visant. Le parquet soupçonnait Blatter d'avoir signé un contrat défavorable à la FIFA avec l'Union caribéenne de football dirigée alors par le Trinidadien Jack Warner, radié à vie par la Fédération internationale et inculpé pour corruption par la justice américaine. Résilié en 2011, ce contrat octroyait des droits télévisés des Coupes du Monde 2010 et 2014 à l'Union caribéenne de football pour 600 000 dollars, une somme jugée en deçà du prix du marché.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Bénin se retire du protocole qui permet à un citoyen de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, une décision qui fait suite à ce que le gouvernement béninois a qualifié de dérapage et d'égarement qui éloigne cette Cour de ses véritables compétences et du rôle crucial qu'elle doit jouer. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et celui de la Justice sont montés au créneau pour apporter des éclaircissements sur les raisons de cette décision qui, selon certains, ne fait qu'isoler le pays sur la scène africaine et internationale. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Tout a commencé lorsque la CADHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a ordonné à l'État béninois de suspendre les élections communales du 17 mai prochain et ce, sur saisine de l'opposant béninois Sébastien Adjavan. Ce dernier se plaignait des préjudices irréparables en cas de l'organisation des dites élections en son absence. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Maître Alain Orunla, a immédiatement réagi, fustigeant une décision dont l'application remet en cause la souveraineté de l'État béninois.
Pas dans les prérogatives de la Cour africaine des droits de l'homme d'enjoindre à un État d'interrompre son processus électoral qui est un acte de souveraineté. Non, le pouvoir de juger ne confère pas le pouvoir de dire tout et n'importe quoi à temps et à contre-temps.
Cette décision notifiée à l'État béninois a d'ailleurs suscité le retrait du protocole qui permet à un citoyen de saisir directement la CADHP. Selon le ministre de la Justice, ce n'est pas la première fois que cette Cour outrepasse ses prérogatives pour s'immiscer dans des affaires qui ne la concernent en rien. Séverin Kenom est le ministre béninois de la Justice.
C'est justement la réitération et la récurrence de ces dérapages qu'il n'est pas possible de sanctionner et que la Cour elle-même ne donne pas l'air de vouloir corriger en dépit des remous qu'elle suscite en son propre sein qui ont amené notre pays à initier son désengagement de la compétence individuelle au président en exercice de l'Union africaine, au président de la Commission de l'Union africaine.
Dans une publication sur sa page Facebook, Valentin Dianoutin, l'ancien ministre de la Justice, en exil depuis quelques mois, affirme que cette posture du régime du président Patrice Talon confirme aux yeux du monde que le Bénin n'est plus un État démocratique. Le Bénin ne peut vivre en autarcie. Cette décision de retirer aux Béninois la faculté de porter plainte contre l'État à la CADHP est un coup d'épée dans la mer, peut-on lire dans la publication. Pour l'ancien parlementaire, l'actuel locataire de la Marina n'est pas le propriétaire du Bénin pour prendre tout seul sur lui la responsabilité de retirer le pays de cet instrument sous-régional. Le consultant politique Agapit Maforekan n'est pas de cette avis. Pour lui, la Cour a montré ces dernières années ses limites.
On a l'impression que l'individu prime tellement sur l'État. On peut le fragiliser du point de vue de l'autorité, du point de vue de souveraineté. Il ne s'agit pas de ne pas donner suite aux droits de nos deux citoyens. Moi, je pense que les droits humains sont sacrés. Mais autant ils sont sacrés, autant l'autorité de l'État doit s'exercer et sa souveraineté doit s'exprimer.
Le Bénin demeure membre de la Cour, mais refuse de mettre à mal sa souveraineté au nom d'un individu. Les élections municipales et communales sont maintenues malgré l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour le gouvernement, ce n'est qu'une question de légitimité et de souveraineté. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la pandémie du Covid-19 et ses conséquences sur l'ordre économique et diplomatique mondial. La propagation du nouveau coronavirus a fait subir des pertes énormes aux économies des pays les plus riches et fragiliser davantage celles des pays en développement. Cette crise sanitaire va-t-elle impulser une nouvelle dynamique dans les relations internationales? Quel rôle l'Afrique peut-elle jouer dans un monde post-Covid-19? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi 30 avril 2020 à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est un organe judiciaire mis en place par l'Union africaine en vue d'assurer la protection des droits de l'homme en Afrique. Elle a pour mandat d'examiner les plaintes et de rendre des avis consultatifs. Elle peut aussi rendre des décisions contraignantes à l'égard des États jugés coupables de violations des droits humains. Mais la mise en application de ces arrêts est souvent ignorée par les pays visés. Bagassi Koura a joint à Dakar le spécialiste de l'Union africaine Ibrahim Khan.
Une décision politique, c'est une décision qui a été prise hâtivement, à mon avis. La décision ne prend effet que dans un an. Et ensuite, rien n'interdit aux individus de pouvoir attraire le Bénin devant la Cour africaine en utilisant le canal de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est parce que cette possibilité aussi existe au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme à laquelle le Bénin est parti par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Si c'est vraiment éviter que le pays ne soit attrait devant les juridictions internationales pour des violations des droits de l'homme, il y a la Cour de justice de la CEDEAO où les personnes peuvent aussi porter plainte contre le Bénin sans avoir à épuiser les voies de recours internes et faire condamner le pays. Donc vous voyez que cette décision-là, cet acte-là paraît plus épidermique que vraiment qu'une décision à conséquence.
Ouais. Alors la même Cour a demandé à la Côte d'Ivoire de suspendre le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, une décision qui a été bien sûr carrément ignorée par Abidjan. Est-ce que le protocole dispose d'un mécanisme pour forcer les États à exécuter ces décisions?
Non, parce que ce qui avait été décidé devant la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire Guillaume Soro, c'était la Cour avait ordonné des mesures conservatoires. Et ces mesures conservatoires consistaient à éviter que l'État de Côte d'Ivoire prenne des mesures pour éviter que la suite de la plainte puisse avoir des conséquences fâcheuses. Alors là, on l'a ignoré totalement. Et en plus, on est allé jusqu'à condamner Guillaume Soro, je crois, à 20 ans. Il n'y a pas à proprement parler de mécanisme qui peut forcer la Côte d'Ivoire à mettre en œuvre les décisions de la Cour à l'heure actuelle. Les seules possibilités qui existent, c'est des possibilités politiques. C'est-à-dire la Cour ayant constaté que l'État n'a pas appliqué sa décision, en réfère le cas au Conseil exécutif de l'Union africaine, qui, puisque c'est un Conseil exécutif qui discute entre 55 États, prend une décision concernant cette affaire. Et jusqu'à ce jour, je dois vous avouer qu'il n'y a eu aucune décision du Conseil exécutif concernant la mise en œuvre des décisions de la Cour.
Joint à Dakar, Ibrahim Khan, spécialiste de l'Union africaine.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En Ouganda, les agents de santé disent avoir un certain succès dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Le pays compte 79 cas confirmés, 49 guérisons et jusqu'à présent aucun décès. Mais hors des hôpitaux, ces travailleurs de la santé sont confrontés à toutes sortes de stigmatisations. Reportage d'Alima Atoumani à Kampala, repris ici par Lionel Gahima.
Le service d'urgence de l'hôpital national de Mulago à Kampala tournait à pleine capacité le dernier mois. L'hôpital affirme que les guérisons sont allées au même rythme que les infections confirmées au coronavirus. Le docteur Baterana Biarugaba, directeur de l'hôpital national de référence de Mulago.
Nous nous sommes dit, ok, voyons comment ce virus tue les gens si nous les maintenons sous leurs médicaments normaux. S'ils sont hypertendus, nous traitons l'hypertension, nous traitons le diabète, nous traitons les ulcères, nous traitons toutes les formes de maladies. Et je pense que cela fait partie de notre succès.
De l'avis du docteur Fred Nakwagala, médecin principal pour la prise en charge des cas de COVID-19 en Ouganda, les leçons tirées des épidémies d'Ebola et de choléra ont aidé le personnel à mieux se préparer. Cependant, il admet que le COVID-19 pose de nouveaux défis, y compris pour les travailleurs de la santé.
Vous vivez avec ce sentiment de peur, d'anxiété. Et aussi, pour vous, vous pouvez être fort. Mais il y a aussi votre famille, où vous habitez, votre communauté, où vous vivez et voyagez. Et il y a aussi la question de la stigmatisation. Si vous entrez dans un marché que les gens vous connaissent, ils ne veulent pas vous servir, ils donnent comme l'impression de ne pas vouloir s'associer à vous.
Pour la ministre ougandaise de la Santé, Dr Jane Ruth Acheng, les seuls nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été importés.
Près de 23 sont des camionneurs venus du Kenya ou de la Tanzanie. Dans le pays, nous n'avons pas eu de cas positifs. Et comme nous approchons de la fin du confinement, nous avons besoin d'avoir des informations vitales qui peuvent contribuer aux décisions de levée de l'isolement.
Les restrictions sur les déplacements et les grands rassemblements doivent expirer ou être prolongées le 5 mai. Pour aider à prendre ces décisions, le ministère de la Santé mène une enquête rapide à l'échelle nationale sur la transmission communautaire, y compris 20 000 tests pour le COVID-19, pour voir si d'autres infections n'ont pas été détectées.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Certains États américains assouplissent les restrictions mises en place pour ralentir la propagation du coronavirus qui a fait plus de 60 000 morts et infecté plus d'un million de personnes aux États-Unis. Les gouverneurs essaient d'équilibrer la menace de santé publique avec le coût économique. 26 millions d'Américains ont perdu leur emploi depuis la fermeture de nombreuses entreprises. Reportage de Brian Padden de VOA, repris ici par Nathalie Barge.
Les gymnases, salons de coiffure et restaurants font partie des entreprises qui ont rouvert leurs portes en Géorgie, le premier État à prendre des mesures pour relancer l'économie locale. Ces entreprises sont toutefois tenues de faire respecter la distance sociale, d'assainir leurs locaux et de dépister les symptômes du coronavirus. Shannon Stafford est propriétaire d'un salon de coiffure. Elle assure prendre les précautions nécessaires.
Nous vérifions les températures. Nous nous assurons que les clients remplissent un questionnaire avant d'effectuer tout type de service sur eux, en nous assurant que les mains sont lavées.
Alors que le taux d'infection en Géorgie continue d'augmenter, les experts en santé publique avertissent que tenter d'ouvrir trop tôt les commerces non essentiels risque d'entraîner une flambée plus grave du virus. Le docteur Jason Farley est épidémiologiste à l'université Johns Hopkins.
En ouvrant l'économie, nous exposons les personnes immunologiquement naïves, c'est-à-dire sans anticorps, sans antécédent au virus. Et nous risquons de perdre plus de vies et de voir une augmentation des hospitalisations.
Le président Donald Trump laisse les États décider sur la relance des activités économiques. Lundi, il a annoncé de nouvelles mesures pour aider les entreprises à rouvrir en toute sécurité et pour accroître la capacité de dépistage du virus.
Assurer la santé de notre économie est essentiel pour assurer la santé de notre nation. Ces objectifs fonctionnent en tandem, ils sont liés.
D'autres États permettent également à certaines entreprises de rouvrir leurs portes, mais il faut le faire en douceur, selon William Schaffner, expert en maladies infectieuses à l'hôpital universitaire Vanderbilt.
Nous devrons peut-être le faire progressivement pour voir si nous pouvons gérer la situation ou si nous obtenons soudainement une nouvelle augmentation des cas de COVID-19, et ce sera un délicat exercice d'équilibre.
L'État de New York est en train d'élaborer un plan progressif pour ouvrir sur la base des recommandations des centres de prévention et de contrôle des maladies qui préconisent notamment une évaluation des risques, souligne le gouverneur Andrew Cuomo.
Nous allons laisser 2 semaines entre les phases afin de pouvoir surveiller l'effet de ce que nous venons de faire. Nous prenons les mesures nécessaires et ce sera sous contrôle.
Tandis que certaines entreprises commencent à rouvrir, d'autres ferment. Une vague d'infection du coronavirus dans l'industrie de l'emballage de la viande a forcé la fermeture d'usines, perturbant la chaîne d'approvisionnement, ce qui pourrait entraîner des pénuries et la flambée des prix.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedouya et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.